Nous prenons nos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 13. 1 Samuel 13 à partir du verset 5. Si quelqu'un peut fermer la porte, s'il vous plaît. 1 Samuel 13 à partir du verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gath et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. » Et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est une histoire que nous connaissons. C'est une histoire que nous avons déjà entendue. Et le Seigneur veut, au travers de cette histoire, nous sortir un enseignement. Alors, en lisant ce passage, quel était l'ordre de Dieu ? L'ordre de Dieu, c'était que Saül attend 7 jours avant d'aller combattre. Saül entend le message qui lui parvient. Les Philistins sont réunis avec des chars, avec des combattants. Et ils viennent pour attaquer Israël. Et Dieu a donné sa parole à Saül en disant, tu attendras 7 jours avant de faire quoi que ce soit. Et Saül voit le premier jour passer. Le deuxième jour passé, le troisième jour passé, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Arrivé au septième jour, il se dit, comme il dit lui-même, je veux me faire violence, je veux faire quelque chose. Alors, lorsque nous lisons ce passage, on se dit, mais Dieu a parlé, comment Saül n'a pas compris ce que Dieu lui a dit ? Comment il a désobéi ? Mais en tant qu'humain, c'est très difficile d'être dans une situation où tu dois élaborer une stratégie parce que tu sais que les ennemis sont là. Il se dit, le premier jour passe, le deuxième passe. Dans sa tête, en tant qu'humain, il se dit, je vais utiliser les jours qui me restent pour faire une réunion, pour voir comment on peut s'arranger. En attendant que Dieu parle, on fera une stratégie. Or, Dieu lui dit, avant de faire quoi que ce soit, tu attends 7 jours. Et tant bien que mal, il a attendu. Mais finalement, au 7e jour, il se dit, là, c'est le dernier jour, donc je peux maintenant faire le sacrifice. Et il fait cet holocauste, et à ce moment-là, Samuel arrive. Il lui dit, mais pourquoi tu as désobéi à l'ordre de Dieu ? Dieu t'avait dit d'attendre 7 jours. C'est ça le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est que Il veut gérer la situation. Il veut lui-même être au contrôle. Parce que quand Dieu lui dit, tu ne fais rien pendant 7 jours, pour lui, il se dit, c'est une perte de temps. Et si maintenant, les ennemis nous attaquaient? Parce que, méditons un peu ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, ne bouge pas pendant 7 jours, avant 7 jours. Mais pendant ce temps-là, est-ce que l'ennemi a attaqué Israël? Je nous pose la question. Est-ce que pendant les 7 jours-là, l'ennemi a attaqué Israël? Non. Finalement, c'est comme si Dieu, en lui disant, attends 7 jours, Dieu est en train de dire à Saül, il ne se passera rien. L'ennemi ne pourra pas t'attaquer sans que moi, je l'ai décidé. Mais non seulement cela, moi, j'ai la victoire entre mes mains. Le thème de notre partage ce soir, c'est la confiance totale en l'Éternel. La confiance totale en Dieu. On peut avoir confiance, mais il arrive des moments où on se dit, là, c'est le jour J. Imaginons, je prends un exemple pour nous faire comprendre. Tu es à Rouen. Tu as rendez-vous à Paris. Il est quelle heure? Il est 19h. Tu as rendez-vous à Paris très important à 19h30. Et à 15h, quelqu'un te dit, non, mais ne t'inquiète pas, on sera à Paris au rendez-vous à 19h30. Tu m'attends, je serai là, et quoi qu'il arrive, on sera à Paris. Alors toi, tu vois l'heure passer. 17h, 18h, 19h, mais qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, la personne a un problème. Et en plus, généralement, quand c'est comme ça, tu appelles, la personne ne répond pas. Mais quand la personne te dit, tu seras à Paris à 19h30, c'est parce que cette personne-là, si elle est sûre comme ça, c'est que pour elle, tu n'iras pas en voiture. Tu prendras l'hélicoptère. Mais ce détail-là, la personne ne te l'a pas dit. Mais toi, tu vois l'heure, tu te dis, la personne m'a eu. Or, dans la stratégie de la personne, toi, tu vois l'autoroute, tu vois le péage, tu vois les bouchons, tu vois un accident sur la route. Mais c'est aux yeux humains. C'est aux yeux humains, c'est l'intelligence humaine. Or, la Bible dit dans Ésaïe 55, les voies de Dieu sont au-dessus des voies des hommes. Quand la personne te dit, quoi qu'il arrive, je viendrai te chercher, tu seras à Paris à 19h30, parce que la personne sait que les moyens qu'elle va utiliser ne sont pas des moyens que l'homme naturel va utiliser. Mais ça, on a du mal. Et c'est ce qui arriva à Saül. Dieu lui dit, attends 7 jours. Mais il a attendu tant bien que mal. Il a attendu. Mais finalement, le jour même, il se dit là, comme Dieu a dit 7 jours, Dieu ne s'est pas manifesté. Et bien aimé, mettons-nous dans le contexte. On n'a pas lu le début du chapitre 13. On dit que les enfants d'Israël étaient réunis de tout Israël. Du nord, du sud, c'était des gens qui venaient de très loin. Et Saül a réuni tout le monde. Et pour lui, il espérait, il pensait que finalement la victoire d'Israël passerait par le nombre de combattants qui étaient réunis. Mais quand les combattants attendent, ils voient qu'il n'y a rien qui se passe, tous sont partis. Un à un, ils ont commencé à rentrer chez eux. Et là, Saül se dit, le temps passe, Dieu m'a dit d'attendre 7 jours, mais voilà qu'on est le 7e jour, rien ne s'est passé. Saül, lui-même, il dit, je me suis fait violence. Et c'est ça notre problème. J'ai pris cet exemple-là pour nous montrer que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Lui, il te dit, reste calme, à 19h30, tu seras à Paris. Il ne t'a pas dit que tu prendras le train parce que dans ta tête, tu dis, s'il faut que je prenne le train, s'il faut que je parte et après j'ai le RER, et après... mais ça, ce n'est pas son problème. Lui, il te dit, tu seras là-bas, tu arriveras à l'heure. Mais notre problème, c'est qu'on veut comprendre, on veut gérer les choses. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Dieu lui dit, attends. Et la question que je me suis posée, mais pourquoi Dieu a fait ça? En réalité, Dieu a fait ça pour que Saül puisse s'attendre totalement à lui. Que Saül ait confiance en la parole de Dieu. Dieu a éprouvé Saül. Et c'est ce que Samuel lui dit. Il dit, mais Dieu t'avait parlé. Dieu te l'avait dit. Et bien aimé, Dieu fera la même chose avec nous. La vie chrétienne, c'est une vie où on a l'impression qu'on marche sans savoir réellement où on va. Mais c'est faux parce que la destination véritable, c'est le ciel. Mais entre le ciel et la terre où nous sommes, il y aura des incertitudes, il y aura des ordres que Dieu va donner qui sont insensées, qui n'ont aucun sens. Et c'est ce que Jésus explique. Nous lisons Jean au chapitre 3. Jésus explique cela à Nicodème. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, on peut commencer à partir du verset 1er. Jean 3, verset 1er. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Voilà ce que Jésus dit à Nicodème. Jésus dit à Nicodème, c'est le verset 8 qui nous intéresse. Jésus dit, le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais tu sais qu'il est là quand même, il souffle. Et en réalité, la vie chrétienne, c'est ça. Et Jésus compare le chrétien à quoi ? Au vent qui souffle. Sans savoir exactement où il va, sans savoir de quoi sera fait le lendemain, mais le vent est quand même là, il souffle. Tu en entends quand même le bruit. Et c'est ça la vie chrétienne. Mais malheureusement, beaucoup cherchent à comprendre, beaucoup cherchent à planifier, beaucoup cherchent, ils se disent, demain ça sera comme ci, comme j'ai fait là, comme j'ai fait ci, comme... mais Dieu viendra toujours pour abîmer cela, pour mettre un désordre, parce que lui, il a son plan à lui, son projet. Il est écrit dans Jérémie 29, « Je connais le projet, les plans que j'ai formés pour vous. » C'est ça ce que Dieu dit. Et Jésus compare le chrétien à ce vent-là qui souffle, qui ne sait pas de quoi demain, le lendemain sera fait, mais qui a une certitude, c'est que le vent est là. Il est là, il va quelque part. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas toujours la certitude de ce que Dieu veut exactement. Où est-ce que le Seigneur veut nous conduire? Mais pourquoi il me fait passer Joseph? Il a une vision, il se voit régner sur ses frères. Mais peut-être qu'il pensait que c'est en travaillant beaucoup, c'est en étant fidèle à son père, c'est en étant fidèle à Dieu, c'est en étant tous les jours peut-être avec le troupeau. Mais est-ce que c'est ça le chemin que Dieu a pris? Non. Dieu est passé par la méchanceté de ses frères qui l'ont vendu. Il s'est retrouvé dans un pays étranger, en prison. Et là, en prison, il a des songes. Et finalement, il se retrouve devant le pharaon, le roi, et il devient finalement le gouvernant de l'Égypte. Le vent souffle. Mais même si on ne sait pas où le vent nous mène, nous, le choix que nous pouvons faire, c'est dire, Seigneur, je mets ma confiance en toi. C'est ça qui prouve réellement que nous sommes... Ce texte qu'on a lu de Jean 3, Jésus dit, il en est ainsi de qui? De celui qui est né de l'Esprit. En réalité, celui qui est enfant de Dieu, véritablement enfant de Dieu, il aura confiance en Dieu. C'est ça qui fait la différence entre celui qui dit, j'aime Dieu, je veux de Dieu, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Quand le vent va souffler à gauche, à droite, à gauche, à droite, il dira, bon, là c'est bon, moi je prends ma direction, parce que là je suis plus sûr. Et c'est ce qui s'est passé avec qui? Avec Saül. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Il est écrit que le peuple, c'est le peuple qui a choisi Saül. Mais Dieu a suscité David, l'homme se lance en cœur. Saül, c'était en quelque sorte le choix, même si c'est Dieu qui l'a mis là. Mais c'était, il représentait un petit peu l'humain, avec sa force, avec son intelligence, avec sa beauté, avec sa majesté, avec tout cela. C'est Saül. Mais finalement, Dieu a voulu casser cette force-là. Dieu a voulu casser cette stratégie militaire qu'il avait élaborée. Dieu a cassé cela parce que les plans de Dieu sont différents. Et le Seigneur veut ce soir que nous ayons confiance en lui. Et le thème, c'est une confiance totale. Une confiance totale, pas partielle, pas d'aujourd'hui et demain, on ne sait pas. Non, c'est totalement confiance en Dieu. Même si on te dit, mais est-ce que tu comprends ce qui... Non, je ne comprends pas. Mais même si je ne comprends pas, je fais le choix d'avoir confiance en Dieu. Moi, je ne comprends pas, mais Dieu sait, il comprend. Il sait ce qu'il fait. Dans le dictionnaire, j'ai regardé le mot confiance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une espérance ferme. Quelqu'un qui a confiance en quelqu'un ou en lui-même, malheureusement, c'est quelqu'un qui a une espérance ferme. C'est quelque chose qui, quand on parle d'espérance, ce n'est pas quelque chose qui est quantifiable, qu'on peut toucher, de palpable. Mais c'est comme une conviction au fond de lui qui dit « c'est comme ça ». Et j'aime beaucoup l'autre définition qu'on donne de la confiance. On dit la confiance, quand on dit « j'ai confiance en une personne », finalement, c'est un sentiment de sécurité envers une personne. C'est ça qui nous intéresse par rapport à notre thème. C'est ça le thème même. La confiance en Dieu, c'est être en sécurité auprès de Dieu. C'est ça. Maintenant, quand on dit être en sécurité, ça ne veut pas dire que le danger ne sera pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'inconnu. Ça ne veut pas dire qu'on sera frappé même parfois. Mais, psaume 91 qui dit quoi? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est ça la confiance, c'est-à-dire un sentiment de sécurité. Même si tout autour de moi m'échappe, je sais que je suis assis et que Dieu est là. Je sais que je suis assis, Dieu est là. Et c'est là que le Seigneur veut nous faire entrer. À avoir confiance totalement en lui. Jusqu'à même, comme j'ai dit tout à l'heure, marcher comme un aveugle. Mais aux yeux des humains, on dira, mais tu es irresponsable. Aux yeux des humains, on dira, mais réfléchis un petit peu, aide-toi. Le ciel t'aidera comme le monde dit. Aux yeux des humains, on te dira, mais tu exagères. Vous, avec votre foi. Mais Dieu veut qu'on ait confiance en lui. Et comment il le manifeste, c'est que parfois, dans des situations bizarres, il va nous donner aussi des solutions bizarres. Quand je dis bizarre, excusez-moi le terme, c'est des solutions qui sont inhumaines. Des solutions, comme quand il dit à Israël, il dit à Saül, attendez 7 jours. Alors qu'une guerre, on ne la prépare pas comme ça. On ne la prépare pas comme ça. Lorsqu'il dit à Josué, faites le tour de la ville. Pourtant, c'est une guerre. Les gens qui sont en face sont des guerriers. Lorsque le prophète dit à Naaman, va te laver 7 fois. Dans le Jourdain. Naaman s'est dit, mais non, mais cet homme, il se moque de moi. Il se moque de moi. Et le serviteur de Naaman lui dit, mais maître, si ce qu'il t'avait demandé était compliqué, on aurait compris. Mais regarde ce qu'il te demande est tellement simple. Et c'est là notre problème. C'est là notre problème. On veut quelque chose qui nous fait participer aussi, notre travail. On veut quelque chose qui nous implique, nous, personnellement. Mais non, Dieu est Dieu. Dieu est grand, il sait ce qu'il fait. Et nous allons voir ça. Pourquoi avoir confiance en Dieu? Mais là, nous sommes d'abord là où nous sommes en train de dire que le fonctionnement de Dieu, c'est celui-là. C'est que parfois, il y aura des choses que Dieu permettra dans nos vies. On va se poser des questions. Mais quel est l'objectif? Mais le but de Dieu, c'est que nous ayons confiance totalement en lui. Imaginez un homme comme Pierre, pêcheur, professionnel. Quand je dis pêcheur, c'est qu'il travaille sur la mer en pêchant des poissons. Il travaille toute la nuit. Le maître vient le lendemain, il leur dit, Pierre, avance en eau profonde, jette le filet. On a vu la réaction de Pierre, il dit, mais maître, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et malheureusement, beaucoup s'arrêtent là, à la première phase. Il dit, Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai jeûné. Et là, parfois, il y a des chrétiens autour de toi pour te dire, ah, mon frère, tu as péché. Mon frère, repends-toi. Oui, si c'est le cas, on se repent. Mais si ce n'est pas le cas, on dit, Seigneur, même si je ne comprends pas, mais j'ai une certitude, ce que toi, tu sais ce que tu fais. Voilà. Et Pierre dit au Seigneur, il dit, même si on a travaillé toute la nuit, mais puisque c'est toi qui dis, alors je veux obéir à ton ordre. Et il jette le filet. Les filets sont remplis, ils sont obligés d'appeler leurs amis pour venir tirer. C'est pour nous dire que cette histoire de Pierre que je prends, c'est ça que Dieu va faire avec nous. Jeter le filet comme ça, c'est alors que tu sais que tu viens de travailler. C'est même pas que tu viens de chez toi en te disant bon, non, tu as travaillé toute la nuit. Tu sais que là, à cet endroit-là, eh ben c'est pas la peine. Mais le Seigneur t'a dit retourne. C'est comme quelqu'un qui cherche ses clés. Hein. Parfois on cherche les clés, on cherche et on te dit mais va voir dans la chambre. Tu as déjà fait 10 tours dans la chambre. Tu as même envie de répondre mal à la personne. Tu dis, mais est-ce que je suis fou? Mais la personne te dit, non, va voir dans la chambre. Et là, tu repars, finalement, avec humilité, tranquillité. Tu regardes, tu dis, ah, mais j'avais pas vu. Oui, c'est ça. Ils ont travaillé toute la nuit, mais le Seigneur a dit, Pierre, jette le filet. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire, même si on ne comprend pas tout ce que le Seigneur fait, mais si nous sommes sincères avec Dieu, si nous sommes honnêtes avec Dieu, alors faisons-lui confiance. Puisqu'en Dieu, nous sommes en sécurité. C'est ça la deuxième définition que j'ai prise. Le sentiment de sécurité envers une personne. C'est ça la confiance. On est en sécurité. Ça correspond au message pour ceux qui reçoivent les messages du mercredi qu'on a eu où les disciples sont dans la barque. La tempête frappe. Non seulement elle frappe, mais en plus, la barque s'enfonce. Mais c'est normal qu'ils paniquent, humainement, c'est normal. Et à ce moment-là, il réveille le maître en panique. Le maître dit, mais homme de peu de foi. Le Seigneur est indigné de voir qu'ils ont paniqué alors que la barque s'enfonce. Mais c'est une réaction normale. Moi, le premier, quand je regarde ça, je dis, mais Seigneur, mais c'est normal qu'ils aient peur. Mais le Seigneur est en train de leur dire et en train de nous dire aussi, même si tu as l'impression que la barque s'enfonce, aie confiance en Dieu. Ne pas avoir confiance en Dieu, c'est finalement renier le fait que Dieu est Dieu. Et là, maintenant, nous arrivons maintenant, pourquoi avoir confiance en Dieu? Eh bien, la réponse est simple. La réponse est simple. Le thème, on va être simple. Pourquoi avoir confiance en Dieu? Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Parce que ce qu'il dit, il accomplit. Parce que Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et connaissant tout ça, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Qui a déjà vu un enfant se permettre, ou alors il y a des jeux qu'on faisait autrefois quand on était enfant. On se permettait de faire certains jeux, et même les enfants aussi, avec des personnes qu'on connaît. Il y a des choses qu'on ne va pas se permettre avec une personne qu'on ne connaît pas. Venir comme ça, faire une blague à quelqu'un, dire tiens, ferme tes yeux, goûte ça. Mais une personne que tu ne connais pas, mais elle peut te gifler. Mais il y a des choses qu'on se permet parce qu'on connaît. Mais si la personne fait ça, c'est parce qu'il y a une relation de confiance. On se connaît. Et puisqu'on se connaît, y a des gestes, il y a des attitudes qu'on peut se permettre parce qu'il y a une certaine proximité. Je sais qui il est. C'est cela. Puisqu'il y a cette relation-là d'amour, il y a cette relation de confiance. Mais Dieu, il est plus que cela. Dieu est plus grand. Dieu est notre Père, le Créateur. Pourquoi avoir confiance en Dieu? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est au contrôle. Nous lisons un passage. Nous lisons Ésaïe 45. Ésaïe 45. À partir du verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Voilà comment Dieu insiste. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui les ai disposés, toute leur armée. Voilà ce que le Seigneur dit. Tout ce qui arrive dans nos vies. On a dit la question c'est pourquoi avoir confiance en Dieu? Parce que Dieu est Dieu. Maintenant que je sais que Dieu est Dieu, c'est-à-dire c'est le Tout-Puissant, c'est-à-dire c'est le Créateur du ciel, de la terre, c'est celui qui a créé l'homme, c'est celui qui permet même que l'adversité, comme on a lu, arrive. L'adversité, c'est l'épreuve, la difficulté, la souffrance, la maladie. Toutes ces choses-là, Dieu dit, c'est moi qui crée cela. La lumière, les ténèbres. Dieu dit tout ça. Arrive parce que moi j'ai décidé. Et il est écrit dans Lamentations 3, je crois 28, je crois. N'est-ce pas l'Éternel qui dit une chose et la chose arrive? Qui peut décider d'une chose qu'elle arrive si ce n'est l'Éternel? Puisque Dieu est Dieu, alors ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. Et nous avons lu à partir du verset 9, Dieu dit, mais malheur à celui qui va contester. Malheur à celui qui va commencer à accuser Dieu. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons souvent. Même si ce n'est pas de vive voix, mais par notre attitude. C'est comme si on dit, Dieu a tort et Dieu dit, mais est-ce que l'argile peut discuter avec le potier? Malheureusement, c'est ce que nous faisons. J'ai regardé le témoignage, j'aime beaucoup ce témoignage-là, c'est Jésus en Chine. Et c'est l'histoire de beaucoup de bien-aimés, de Watchman Nee, d'Alan Yuan. Et là, c'est l'histoire de Moïse Shi. Moïse Shi, c'est Il fait partie de la même génération que Alan Yuan. Il a été mis en prison pendant 23 ans. Pendant 23 ans en prison. Et il dit, il était torturé, maltraité en prison. Il dit, quand il est entré en prison, il avait des menottes, et je pense que c'est un peu comme les menottes en Afrique. Les menottes en Afrique, c'est de l'acier, et quand on serre, ça entre dans la peau, ça peut tellement te blesser qu'on voit, on peut même voir l'os. Et il dit, il était menotté comme ça, et ses geôliers bougeaient comme ça les menottes, il le secouait, et il était tout marqué, tout était, la peau était entrée, il était blessé partout. On tirait ses cheveux, on le frappait. Et il dit une chose, il dit, j'ai cru en Dieu, je croyais en Jésus, j'avais la foi. À un moment donné, la souffrance était tellement forte, tellement grande, que j'ai eu des pensées de suicide. Je me suis dit, mais Seigneur, nous avons cru en toi, mais regarde comment ces gens nous traitent, regarde comment je vis, regarde comment je souffre. Et il dit qu'il a décidé finalement de mettre fin à ses jours. Il a enlevé l'ampoule, je ne sais pas comment il a réussi parce qu'il était menotté. Et il dit que ce qu'il voulait, c'était en mettant ses menottes sur le métal de l'ampoule, qu'il puisse être électrocuté. Il dit, mais avant ça, j'ai quand même prié pour ma famille, pour la conversion de ma famille. Mais j'étais tellement triste, tellement dans la souffrance. Et quand il a essayé de se tuer, finalement, ça n'a pas marché. Et les co-détenus sont allés chercher les geôliers qui l'ont encore tapé. Ils l'ont encore tapé. Et il disait, mais Seigneur, pourquoi tu permets tout ça? Pourquoi tu permets tant de souffrance? Est-ce que suis-je moi obligé de souffrir, Moïse Chier, pour que ces gens sachent que tu es Dieu? Es-tu obligé d'aller si loin pour que finalement les gens comprennent que tu es Dieu? Et là, il dit, la même réponse que le Seigneur donne à Paul, hein, il dit, le Seigneur lui dit, il entend la voix du Seigneur qui lui dit, ma grâce te suffit. Une fois, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et là, il dit, je me suis repenti et j'ai changé ma prière. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, j'ai prié en disant, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été rebelle. Pardonne-moi parce que j'étais humilié. Par ma réaction, j'ai eu honte. Bien aimé, imaginons ce que cette personne-là a vécu. On a envie de dire que c'est légitime. On a envie de dire, mais après tout, est-ce que dans la salle, là, je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait vécu le 1/100 de ce que lui, il a vécu. Il n'y en a pas. Et quand je regardais ce témoignage, voilà, il se repent, il dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal parlé, j'ai eu de mauvaises pensées, même de m'ôter la vie. Pardonne-moi parce que je suis mauvais, je ne suis pas digne. Déjà, moi, quand je vois une personne qui fait 23 ans pour le Seigneur en prison, avec toutes ces maltraitances qu'il subit, et il dit, je ne suis même pas digne d'être ton enfant, d'être ton serviteur, Jésus. Mais il dit, ce qui m'a tenu, c'est la confiance en Dieu. La confiance que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Et c'est ce que le Seigneur va faire pour nous, avec nous. Une confiance totale. Comme on a lu, Dieu dit, c'est lui qui crée l'adversité. C'est lui qui crée parfois les ténèbres. C'est lui qui crée parfois les difficultés. Mais souvent, nous, en tant qu'humains, on va toujours chercher au mauvais endroit. On va te dire, voilà, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as... C'est parce que les chrétiens sont spécialistes. Dieu m'a dit, voilà, voilà. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi tout simplement que c'est la souveraineté de Dieu. Où est-ce que Joseph a eu péché pour subir ce qu'il a vécu? Où est-ce que Job a péché pour subir ce que Job a vécu? Mais parfois, Dieu peut permettre des situations comme ça pour accomplir son plan à lui. C'est dur hein, ce que je suis en train de dire là. Parfois, Dieu peut nous faire souffrir, nous. Quand j'ai dit nous faire souffrir, c'est la chair qui souffre. Mais pour accomplir ses plans à lui. Ça n'a rien à voir avec nous. Parce que souvent, on se dit, bon, je souffre, mais après, Dieu va me relever dans la gloire. C'est ça que ce qu'ils disent dans l'évangile de prospérité. Viendra ton temps, un jour tu marqueras. Mais non, mais Dieu peut aussi permettre que tu souffres et que tu meurs même. Et beaucoup diront quoi, quel gâchis. Quel gâchis. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos voies. Saül s'est dit, quel gâchis. Un jour, deux jours, trois jours, sept jours. Quel gâchis, on a perdu du temps. Et malheureusement, beaucoup se disent aussi ça. Mais quel gâchis, on perd du temps. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et on se rebelle. Je suis en train de nous dire ce soir qu'il y a des situations qui sont comme des situations d'échec, mais quand je dis échec, c'est aux yeux des humains. Comme un homme comme Moïse, là, quand on voit sa vie, il n'y a pas que lui, il y a la Nuagne, il y a tous les autres aussi, et même les apôtres. S'il vivait à notre époque, on dirait, mais quel échec, une vie d'échec. Parce qu'on est enfant de Dieu quand même. Parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Parce que, mais où c'est écrit où? C'est écrit où? Dieu dit dans Ésaïe 42, 8, il dit, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Cela mon nom, qu'est-ce qu'il ajoute? Je ne donne pas ma gloire aux hommes, ni mon honneur aux idoles. C'est ça. Et beaucoup, on est dans une situation comme d'échec. On en arrive à avoir honte de Dieu. On a honte de Dieu. On a honte qu'on dise tel il est chrétien. Je me rappelle une fois, on est parti chanter à Saint-Étienne-du-Rouvray, à l'hôpital psychiatrique, et ça faisait plusieurs temps qu'on priait pour cela. Ça faisait longtemps qu'on priait. On est parti chanter, et lorsqu'on est arrivé, on a commencé le concert. Je crois un ou deux chants après, il y a une forte pluie. Très forte pluie. Et là, il fallait prendre la décision. Tout le monde me regarde, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, moi, j'ai dit là, si on dit qu'on arrête le concert, mais quel sentiment de... Quel goût d'inachevé. Parce que nous sommes humains, il y a la chair qui est là. On se dit, non, on va jusqu'au bout. Ah, la pluie continue. Bon, j'ai dit, bon là, Seigneur, c'est pas grave. On va arrêter le concert. Et quelqu'un vient me voir pour me dire, mais on a arrêté le concert. Mais est-ce que... C'est comme si, bah, on a prié, mais ça n'a pas marché. Et en plus, ce jour-là, je crois que ce piano-là a pris un coup, il ne s'allumait même plus, je crois. Ou il est tombé, le fil s'est cassé. Et quand on voit ça, il y a un sentiment quand même qui est là, d'échec. Qu'est-ce qu'on aurait voulu? Le conte de fées, c'est quoi? On a prié, le soleil est sorti. On a chanté, gloire à Dieu. Ah oui, oui, il y aura ces choses-là, des fois. Mais très souvent, quand on est vrai de Dieu, il y aura l'échec. Mais l'échec humain, parce que qui doit avoir la gloire? Dieu seul. La sœur me dit, mais pourtant on a prié, mais on a dû arrêter le concert. Et puis après, finalement, on a repris le concert dans la salle, dans des conditions vraiment rudimentaires. Mais c'est ça, puisque Dieu seul doit être glorifié. Et voilà ce que j'ai répondu à la sœur. J'ai dit, tu sais, on ne comprend pas tout ce qui se passe avec Dieu. On ne comprend pas tout. Je dis, Jésus, lorsqu'il a été à la croix, aux yeux des humains, c'était comme un échec, même pour les disciples. C'était un échec. On se rappelle des disciples d'Emmaüs. Ils rentraient chez eux tristes en disant, mais ne sais-tu pas ce qui s'est passé ? À Jérusalem ces jours-ci, un homme puissant en œuvre, en parole, qui a été mis à mort, voilà le troisième jour. Ces choses sont arrivées. Et ils rentraient chez eux tout tristes. Ils disent, on pensait que c'est lui qui délivrerait Israël. Le conte de fées, on pensait que par la prière, Dieu allait changer les choses. On va imposer les mains, la personne va guérir. Oui, ce sont les promesses de Dieu. Mais Dieu peut faire aussi que ça ne marche pas. Dieu peut faire aussi que ça ne marche pas. Et c'est ce que j'ai répondu à la sœur. J'ai dit, Jésus à la croix, c'était comme un échec. Mais de cet échec-là a jailli la victoire pour tous les humains. Amen. C'est pour nous dire qu'il y a des situations, parfois, qu'on va vivre en tant qu'enfant de Dieu, qui sont comme un échec. On a échoué. Les gens vont se moquer de toi en disant, ah, voilà lui qui se dit chrétien. Ah, voilà, voilà, voilà. Mais malheureusement, à ce moment-là, nous, on cherche à la mauvaise direction. Ah, parce que je n'ai pas jeûné, parce que je n'ai pas fait ceci, parce que non, non, non. C'est parce que Dieu a voulu ainsi, c'est tout. Voilà, parce qu'il est tout puissant. On a vécu des moments à faire de la musique, on a prié, on voyait les nuages partir, on a vécu tout ça. Mais on a vécu aussi, je pense que ceux qui sont parmi nous, ceux qui connaissent un petit peu la chorale, ils connaissent les galères qu'on a vécues à la fête de la musique. Pourtant, c'est l'été. Hein. Mais je peux vous dire que combien de fois on arrive la boule au ventre, on se dit, mais ah, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui là? Qu'est-ce qui va... Mais Dieu permet cela. Pourquoi? Pour qu'on ait confiance en lui. Retenons ça ce soir. Confiance totale en Dieu. Confiance totale. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on est comme le vent, il souffle. Mais Dieu sait, il connaît la direction. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait foi en lui. C'est ça. C'est pour nous dire que les situations qui paraissent comme des échecs aux yeux des humains, eh ben, Dieu, cet échec-là, mais il peut le transformer en un instant. C'est ce que Joseph dit à ses frères. Il dit, mais vous avez fait le mal. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de ce mal-là? Qu'est-ce qu'il a fait de cela? Il a transformé en bien. C'est pour dire que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. C'est ce que je disais tout à l'heure. On te dit, à 19h30, tu seras à Paris. Toi, tu commences à 19h à tourner en rond, à préparer la carte pour le péage, à mettre le carburant. Mais lui, il vient et te dit, mais non, on ne prend pas la voiture. Parce que si on prend la voiture, on ne va jamais arriver. Moi, quand je t'ai dit à 19h30, on sera là-bas, c'est parce que moi, j'ai mon plan à moi. Malheureusement, nous, on reste sur notre intelligence humaine. Et finalement, c'est ce que Moïse comprend. Et il prie, il dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne suis pas digne. Et quand j'ai entendu cette prière de repentance, je me suis dit, mais il y a des gens qui ont compris qui est le Seigneur, qui ont compris qui est Dieu, qui ont compris la souveraineté de Dieu. Bien aimé, imaginez une personne, 23 ans en prison. Et la prison, c'est pas comme nos prisons ici. C'est pas comme nos prisons ici. Son ami Alain Yuan, pareil, 21 ans en prison. Et lui, il était vers la frontière de la Russie. Il dit, l'hiver, ça descendait jusqu'à moins 30, moins 40. Et il n'y a pas de chauffage. Hein. Et c'est des barreaux. Hein. Les barreaux, donc, c'est comme si vous êtes dehors. Et qu'est-ce qu'il dit Alain Yuan? Il dit, tous ceux qui étaient autour de moi mouraient de froid. 21 ans de prison. Et il dit une chose formidable. Il dit, pendant les 21 ans, je ne suis pas tombé malade. Je ne suis pas tombé malade. Bien aimé, ce n'est pas des prisons où il y a des chauffages avec une télé, avec Canal+. Non, non. C'est des barreaux, c'est comme si vous êtes dehors. Donc vous êtes juste enfermé par des barreaux. Moins 40, moins 50. Humainement parlant, c'est impossible, c'est inimaginable. Mais parfois, Dieu peut se servir de témoignages comme ça pour manifester aussi sa gloire. Souvent, on veut des témoignages. Oh, j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer, le diable m'a parlé. Ensuite, Dieu, on aime beaucoup des témoignages comme ça là, sur YouTube. On voit les vues, c'est toujours, je ne sais plus combien, des caca. Mais le véritable témoignage, c'est quelqu'un qui dit, eh ben, j'ai enduré le froid pour le Seigneur et j'ai encore la foi. C'est ça les vrais témoignages. C'est ça les témoignages. Quand je dis vrai, les autres ne sont pas faux. Quand je dis vrai, ce sont des témoignages qui construisent un humain dans la marche avec le Seigneur. Ce sont des témoignages qui viennent nous faire dire que l'échec, au sens humain, n'est pas un échec. Beaucoup de chrétiens vivent dans une forme de frustration. Oh, Dieu aurait dû faire comme ci. Dieu aurait dû faire comme ça. Dieu aurait... Non, non. Qui es-tu pour dire cela à Dieu? Qui es-tu? Et là, on arrive à notre deuxième point. On a dit la question, c'est eh ben, pourquoi faire confiance en Dieu? On a dit parce qu'il est Dieu. On a dit premièrement, puisqu'il est Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est lui qui permet. On a donné l'exemple de Moïse chier. On a lu Ésaïe 45. Et maintenant, nous allons lire un autre passage. Nous prenons nos Bibles dans le psaume 23. Nous allons lire d'abord Jérémie 17. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voilà ce que nous dit ce passage. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comment ? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais on nous dit pourtant, il y aura la sécheresse. Mais son feuillage reste comment ? Il reste vert. Son feuillage reste vert. Donc malgré la difficulté, parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de sécheresse, il y a une sécheresse qui est là. Il y a une difficulté qui est là. Il y a une épreuve qui est là, mais celui qui se confie en l'Éternel, eh ben, lui, il est resplendissant. Il continue à vivre. Je me rappelle l'histoire de Daniel, des amis de Daniel qui vont voir leur intendant pour dire eh ben, nous ne voulons pas nous suer avec les mets du roi. Et il nous est écrit eh ben, ces hommes-là avaient le visage plus attrayant que celui qui mangeait les mets du roi. Mais non seulement cela, on nous est dit ils étaient encore plus intelligents. Ils étaient encore plus intelligents. Et c'est là que je veux prendre notre deuxième sous-point. Le premier sous-point, on a dit que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui permet. Le deuxième sous-point, c'est nous dire que quand on se confie en Dieu, quand on a confiance totalement en Dieu, eh ben, on reçoit des biens spirituels. D'abord, les biens matériels pourront suivre, mais d'abord, on reçoit la confiance, on reçoit la paix en Dieu, on reçoit l'assurance que le Seigneur est là quoi qu'il arrive. C'est bien spirituel là qui nous aide à tenir. Et quand j'ai pris l'exemple de ces hommes, Alan Nguyen, il dit 21 ans en prison, il dit qu'en prison il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de Bible. Et vous savez comment il tenait ? Comment il se fortifiait ? Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais eux, ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas le droit d'avoir des Bibles. Et il dit qu'il avait un chant qui revenait tous les jours. Quand il était abattu, quand il était triste, quand il était malheureux, ah ben, ce chant revenait. Et bien aimé, rien qu'un chant t'aide à tenir pendant 21 ans. Un chant. Un chant. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener dans la profondeur. Que nous ne puissions pas rester dans la superficialité. On peut être superficiel, mais comme on a dit au début, Dieu permettra des situations qui vont nous désorienter, où on ne sait pas, on ne comprend pas, on a bien fait des choses, on a bien respecté le protocole, on a bien, mais rien ne marche. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on ait confiance en lui. Il dit « Maudit quiconque se confie dans l'homme et prend la chair pour appui. » Se confier dans l'homme, c'est on peut se confier en soi-même en disant eh « ben, je ferai comme si. » Et là, je réussirai. Dieu dit « Malheur à cet homme-là. » Malheur à cet homme-là. Quand bien même ça marche aujourd'hui, demain, cette personne-là te fera défaut. Demain, cette personne-là mourra. Même si elle a de bonnes intentions, elle sera incapable un jour de t'aider. Et Dieu dit, heureux celui qui se confie en l'homme. Et nous lisons le psaume 23 de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà ce que dit David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger, c'est qui? Un berger, c'est celui qui conduit un troupeau. Un berger, c'est celui qui donne la direction à un troupeau. Un berger, c'est celui qui protège le troupeau. Un berger, c'est celui qui nourrit le troupeau. Un berger, c'est celui qui défend le troupeau. Un berger, c'est celui qui est prêt, Jean 10, tout ce que je dis, c'est dans Jean 10, celui qui est prêt à mourir, donner sa vie pour ses brebis. C'est ça, un berger. Et David dit, puisque l'Éternel est mon berger, puisque l'Éternel, finalement, est celui qui garantit ma vie, alors je ne vais pas m'inquiéter parce qu'il sait, lui, ce qui est bon pour moi. Il sait. Il sait. Quand il me dit, va à tel endroit, déjà il est avec moi, mais en plus, je ne me demande pas, mais pourquoi il m'a dit ça, non? Je fais confiance, parce que je sais ce qu'il dit, voilà, tout simplement. J'aime beaucoup l'histoire de Marie, lorsque les personnes viennent voir Marie pour dire, mais il n'y a plus de vin, qu'est-ce que Marie répond aux noces de Cana? Qu'est-ce qu'elle répond? Allez voir Jésus et faites quoi? Tout ce qu'il vous dira. Marie n'a pas cherché à dire, vous savez, je suis la mère de Jésus, vous savez, Jésus, il a des pouvoirs. Il a... Non, 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 c'était tellement naturel pour elle. Elle dit à ces personnes, allez voir le monsieur et faites tout ce qu'il vous dira. Donc elle est sûre qu'il dira quelque chose. C'est ça que nous sommes en train de dire là. C'est ça que nous sommes en train de dire. Et notre prière, c'est ce qu'on va voir après, c'est quelle réaction avoir finalement. Et David dit, l'Éternel est mon berger. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui s'occupe de moi. Alors, je ne manquerai de rien. Et nous continuons la lecture. Verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les justices à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces passages-là, mais on n'a pas le temps. Mais il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre... D'abord, il dit, il me conduit dans les verts pâturages. C'est-à-dire qu'il y aura des temps où tout est paisible, tout est tranquille. Mais il y aura des temps aussi où il y a la vallée de l'ombre de la mort, où il y a l'inconnu, où il y a l'incertitude, où on ne maîtrise pas les choses. Il dit, il y aura ces temps-là aussi, comme les Anglais disent, de blackout, où voilà, tout est sombre, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais quoi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, Seigneur, tu es là. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et c'est ça que nous entendons de dire en disant que Dieu permet ça parfois pour nous faire entrer dans une nouvelle relation avec lui. Une relation de brebis à berger. Une relation d'enfant envers son père. C'est dans cette relation que Dieu veut nous faire entrer. Un enfant normal, bien constitué, bien éduqué, il aura confiance en ses parents. Il aura confiance. Même s'il ne va pas tout comprendre, mais il se dira, non, ce que mon père ou ma mère me veut, c'est le bien. Alors je ne peux pas remettre en cause son amour envers moi parce que je vis ce que je vis. Non, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et c'est pour nous dire cela ce soir, pour nous rappeler qui est notre Dieu. Jésus dit, lorsque vous priez, entrez, dites quoi? Notre Père. Qui est où? Qui est aux cieux? C'est pour dire que notre Père, toi là où tu es, les problèmes de la terre ne peuvent pas t'atteindre. Là où tu es au ciel, Dieu, eh bien, ça montre que tu es élevé, tu es au-dessus. Mais non seulement cela, tu es qui? Tu es notre Père. Mais quel privilège de le savoir. Quel privilège de le savoir. Et là, quand on réalise cela, eh bien, les problèmes de la terre ne nous font plus peur. Il dit une chose, il dit, tu restaures quoi? Tu restaures mon âme. Voilà ce que dit David. Tu restaures mon âme. Et comme j'ai dit tout à l'heure à la Nuan, un chant pendant 21 ans, c'est ce chant-là qui nourrissait son âme, qui le soutenait, qui lui disait, non, tiens courage. Garde la foi. Regarde à Jésus. Et c'est ça que pourtant, une fois qu'il avait cette joie-là, il était toujours en prison. Mais quand on a cette attitude-là, finalement, la difficulté n'en est plus une. Finalement, la souffrance n'est plus une souffrance. Même si elle est là, puisque j'ai confiance en Dieu, puisqu'il m'aime, alors je reste en paix. Et c'est là que Dieu veut nous faire entrer. C'est là que Dieu veut nous faire entrer. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et qu'est-ce qui se fera après? Dieu mettra la paix dans nos cœurs en Christ. On ne nous dit pas dans ce verset-là que Dieu va régler ta situation directement. Dieu peut le faire. Il peut le faire. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous croyons qu'il peut le faire sans qu'il l'ait fait, visiblement. C'est là que Dieu veut nous faire entrer. D'abord dans le spirituel, comprendre, parce que le matériel, qui, lorsqu'il voit un miracle, ne croirait pas? Mais beaucoup croiraient. Beaucoup sont étonnés d'entendre même des diseurs de bonnes aventures dire des choses. Ils sont épatés, ils sont impressionnés. Mais Dieu veut nous faire entrer plus loin. Quand il voit cet homme paralytique de Marc 2, il dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens disent, mais qui il est? Oh, en plus... Voilà, un imposteur, il dit tes péchés sont pardonnés, en gros c'est facile. Mais le Seigneur, il est écrit que le Seigneur a lu dans leurs pensées. Il dit, mais pourquoi vous vous agitez? Qu'est-ce qui est plus difficile? Il dit, pour vous montrer maintenant que le Fils de l'homme a aussi le pouvoir de guérir, il dit, maintenant lève-toi, marche. Pourtant la réponse que Jésus donne à cette personne, parce que quand ses amis viennent le faire passer par le toit, leur volonté c'était quoi? Leur désir c'était quoi? Que leur ami soit guéri. Mais Jésus dit à ses amis, il dit, tes péchés sont pardonnés. Je pense que même les amis ont dû se dire, mais maître, mais non, on n'est pas venu pour ça. Nous, notre ami est malade. Mais c'est pour nous dire que ce que Dieu nous donne, c'est d'abord le spirituel. C'est d'abord de croire en lui. C'est d'abord de comprendre qui il est. De quoi il est capable. Une fois qu'on a compris ça, le reste peut venir après. Peut ne pas venir aussi, mais ce qu'on a compris reste. Mais malheureusement, beaucoup, au septième jour, c'est une façon de parler, comme Saül, ils capitulent finalement parce qu'ils n'ont pas vu. Ils s'attendaient à recevoir ceci ou cela, ils n'ont pas reçu. Finalement, ils abandonnent, malheureusement. Mais Dieu veut nous faire rentrer dans cela. Et une autre chose encore, nous lisons le psaume 33. Psaume 33. On est toujours dans les psaumes. Psaume 33. Verset 1er, on peut commencer. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Maintenant, que nous dit la Bible à propos du juste? Nous lisons la page qui est à côté, psaume 34, verset 20. Que nous dit la Bible? Le malheur atteint souvent le juste. Et là, on vient de lire juste. Quand on dit juste, réjouissez-vous, on pense que le juste, c'est voilà, celui qui il est pieux, il est correct, il a une puissance, il... Non, 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 pas du tout. Psaume 34, 20 nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Le psaume 34 qu'il a écrit, et même ce qu'on lit là, qui a écrit ça, David. Et ceux qui ont des Bibles, ils peuvent voir, psaume 34, c'est écrit. David a écrit ce psaume-là à quel moment? Quand il a fait le fou. David a fait le fou pour garder la vie sauve. Il faisait des signes sur les battants des portes. Il laissait couler la salive. À tel point que le roi ennemi vient le voir. Il dit à ces gens, mais pourquoi vous m'amenez un homme insensé comme ça? Laissez-le partir, il a perdu la raison. Et David part, il écrit le psaume 34. C'est pour revenir un petit peu en arrière pour dire, bien-aimé, parfois avec Dieu, on aura des victoires éclatantes. Parfois avec Dieu, il y aura des moments où tu arrives, tu imposes les mains à quelqu'un, il est guéri. On dit, ah, Dieu est bon, il est tout puissant. Tu arrives, tu chantes un chant, quelqu'un est délivré, Dieu est bon. Mais il y aura des moments aussi où tu seras humilié. Imaginez David, bien-aimé, faire le fou, la salive qui coule. De rien qu'à dire ça, c'est même gênant. C'est pour nous dire qu'avec Dieu, il y aura des temps où on sera dans la gloire fort, mais il y aura des temps, comme j'ai dit tout à l'heure, on a chanté, la pluie tombe, les instruments cassés, et là on peut se dire, mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a prié? Mais pourquoi Dieu? Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, amen. Il est Dieu. Il a dû faire le fou pour garder la vie. Je pense qu'à sa place, beaucoup accuseraient même Dieu. Pour dire pourquoi Seigneur, pourquoi? Mais David est délivré, il dit, ah, je bénis l'Éternel. Parce que c'est lui qui m'a gardé la vie sauve. Et nous revenons à ce que nous disions. Il dit, juste, réjouissez-vous dans l'Éternel. Et le juste, on nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur, c'est la mauvaise nouvelle. Le malheur, c'est souvent l'épreuve. Le malheur, c'est souvent une situation qui est indésirable, qui ne fait pas plaisir à la chair. On nous dit, ça arrive souvent. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est pour que ce juste puisse se confier toujours en Dieu. Toujours revenir à Dieu pour dire, Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Tu regardes le compte comme ça, bien, sans problème. 3 chiffres, 4 chiffres. Tu dis, bon, là, j'ai payé la facture, j'ai payé les impôts. J'ai payé l'assurance, donc pour ce mois-là, je suis tranquille. Bien-aimé, souvent quand tu dis ça, il y a une situation qui arrive après. Finalement, la tranquillité que tu avais là ne dure même plus. La vie sur la terre est dure. La vie sur la terre est difficile. La vie sur la terre est très compliquée. Là, on parle à notre niveau. Mais les grands aussi, ils ont aussi leurs souffrances, leurs difficultés. Nous croyons qu'un homme comme Macron, là, il est trop... Mais ils sont malheureux. Pour ceux qui ont vu un petit peu le documentaire La vie du Premier ministre, vie de Matignon, tous les premiers ministres, Raffarin, tous ces gens-là, De Villepin, ils témoignent. Mais ils disent, ils dorment avec leur téléphone, ils se disent, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Tous les jours, à chaque minute, bien, mais c'est pas facile. Nous, on voit tous ces ornements, ces honneurs, on dit, oh, monsieur le Premier ministre, mais ce sont des gens qui sont très malheureux. La vie sur la terre est très difficile. Très difficile. Parce que du jour au lendemain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Alors, ils vont guetter dans leur entourage. Parce que même si toi, tu n'as pas fauté, si ton entourage faute, eh ben, c'est comme si c'était toi. On va t'attaquer. Pour dire, ah, oh, voilà, il était au courant. Ah, bah. Donc, finalement, la vie sur la terre est dure. Mais alors, à quoi souffrir comme ça et ne pas avoir Dieu? À quoi ça sert? Et là, on nous dit... Le malheur atteint souvent le juste. Mais, qu'est-ce qu'on nous dit? L'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi, comme on a dit, pour qu'on ait confiance en Dieu? Pourquoi? Pour vivre la vie de foi. Tous les jours. Avoir foi en Dieu. Et nous continuons rapidement, puisqu'on n'a plus le temps, rapidement. Célébrer l'Éternel avec la harpe, célébrer-le avec le luth. À 10 cordes, chantez-lui un chant, un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments, car la parole de l'Éternel est droite. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Méditons ces passages, bien-aimés. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. C'est pour nous dire que c'est que tout ce qui arrive, comme on a dit tout à l'heure, eh ben, Dieu a millimétré les choses. Il a millimétré les choses. Ce n'est pas quelque chose qui lui échappe en se disant « Oh, il est surpris ». Non. Il est au contrôle. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Tous ces passages-là, méditons-les quand nous voulons prier. Disons cela au Seigneur. L'Éternel dit, verset 10, renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. On va continuer la lecture, mais je voulais m'arrêter là. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Verset 17 aussi. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur tous ceux qui le craignent. Ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Voilà ce que dit le psalmiste. Voilà ce que dit le psalmiste. Il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce ne sont pas les combinaisons que l'homme va faire qui vont finalement lui apporter le bonheur. Non. Il dit, le cheval est impuissant pour donner le salut. Pourtant, le cheval, c'est un animal. Et à cette époque-là, qui était utilisé pour les guerres, qui manifeste aussi une certaine force. Mais Dieu dit, le cheval est impuissant pour donner le salut. Et finalement, à la fin du chapitre, nous lisons que nous devons nous confier en Dieu. Nous devons nous confier en Dieu. C'est ça que Dieu veut, que nous puissions nous confier en lui. Ne nous confions pas à l'armée. Quand on dit l'armée ici, c'est tout ce que l'homme peut produire. Tout ce que l'homme peut faire. Tous les calculs, quand tu as fait tes calculs, quand tu as fait tes combinaisons, que ça ne marche pas, ben dis, Seigneur, j'ai essayé, j'ai échoué, alors manifeste-toi. C'est ça. C'est cela. Notre troisième sous-point, c'est dire, la délivrance vient de l'Éternel. Puisque Dieu est Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est lui qui permet. Puisque Dieu est Dieu, ce qui m'arrive, c'est parce qu'il y a un objectif. Il veut m'apprendre que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il veut m'apprendre que malgré tout ce qui m'arrive, l'ombre de la vallée de la mort, sa présence me rassure. Il veut m'apprendre que mon âme est toujours restaurée. Jérémie 17 qu'on a lu qui nous dit que l'homme qui craint l'Éternel est comme un arbre planté. Ses racines s'étendent, même s'il y a la sécheresse. Ses feuillages, son feuillage reste vert. Alors la question pour finir, c'est ben, que faire? Ah ben, responsabilisons le Seigneur. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Mais c'est tellement simple. Mais c'est Dieu se manifeste dans les choses simples. Comme j'ai pris l'exemple de Moïse Chier qui a responsabilisé Dieu en disant, mais Dieu, pourquoi je souffre ainsi? Je suis humilié. Parce que j'ai prêché la vérité, voilà comment je suis humilié. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu permets toutes ces souffrances? Responsabilisons le Seigneur. Disons à Dieu, Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Ben, puisque tu es Dieu, mais agis maintenant. Nous lisons pour finir ce que dit, c'est une prière, hein. C'est pas moi qui invente, c'est Josaphat. Nous lisons 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. On va lire juste le passage, parce qu'on n'a plus le temps. On peut commencer à partir du verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? » Voilà ce que Josaphat dit à Dieu. Il responsabilise. Dans le contexte, c'est quoi? C'est que les ennemis viennent, les Moabites, les Ammonites, ils se sont mis ensemble pour attaquer Juda, un tout petit royaume. Et Josaphat entend ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tout Israël et il prie. Il dit, mais Dieu, mais n'est-ce pas toi le Dieu Tout-Puissant? Regarde, mais qui sont ces gens-là pour nous faire peur comme ça, Dieu? N'est-ce pas toi, ô notre... Verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon, les Moabites et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de la foule, de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jehiel, fils de Matana, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et roi, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Et on peut continuer la lecture. Voilà ce qu'a fait Josaphat. Que faire? C'est responsabilisons Dieu. Disons à Dieu, Dieu, n'est-ce pas toi qui es Dieu? N'est-ce pas toi qui es Dieu? Alors Seigneur, regarde la situation qui est devant moi. Regarde la situation que je vis. Seigneur, eh ben moi je suis sans force. Et mes yeux sont tournés vers toi. Faisons cette prière-là. Que faire? C'est prier comme Josaphat l'a fait. Que faire? C'est rappeler la parole de Dieu. C'est ce que Josaphat est en train de faire. C'est ce qu'une autre personne encore, Gédéon, dans Juges 6, dit à Dieu, « Mais Dieu, mais où sont les prodiges que nous ont évoqués nos aînés? Où sont ces prodiges? Dieu, regarde comment nous vivons sous la domination, le joug de l'ennemi. » Et à partir de ce moment-là, Dieu dit à Gédéon, il dit, c'est toi que j'ai choisi comme solution. Dieu dit à Josaphat par la bouche du prophète, il dit, ne craignez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Exode 14, 14, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Voilà l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir. La situation arrive, on responsabilise. Bien aimé, bien souvent, on boude, on s'énerve, mais Dieu est Dieu. Dieu est tout puissant. On se dit, mais je pensais que Dieu allait faire. Non, c'est Dieu qui décide. Alors, puisque nous sommes ses enfants, alors disons-lui, Seigneur, regarde la situation. Maintenant, comment je veux faire? Est-ce qu'un enfant, quand on lui dit, il faut une tenue de sport, ou alors, ramène tel cahier, demain? Parfois, même les profs, ils disent, allez, il met un mot pour le lendemain. Mais le prof, lui, c'est pas son problème. Lui, il se dit, l'enfant doit avoir le cahier, il doit avoir la tenue. Eh bien, il doit l'avoir demain. Et l'enfant, quand il vient, il ne va pas non plus se dire, bon, est-ce que mon père aujourd'hui, est-ce que le salaire est passé? Non, ce n'est pas son problème. L'enfant, il vient et il dit, papa, c'est ta responsabilité. Tu as voulu que j'aille à l'école, non? Eh ben donne-moi alors. Eh ben oui, si tu veux que j'aille à l'école maintenant, voilà ce qu'on me demande à l'école. Nous aussi, on dit, ben, nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de l'Éternel, le Tout-Puissant. Seigneur, n'est-ce pas toi le Tout-Puissant? Eh ben voilà, maintenant, prends tes responsabilités. Voilà, c'est ça. Et Dieu aime ça. Dieu aime qu'on le responsabilise. Non, pas dans un esprit d'affrontement pour dire, mais pourquoi? Non. On voit la prière de Josaphat, non? Il dit, Seigneur, nous sommes petits, on ne sait pas quoi faire. Toi seul est la solution. Prions afin que Dieu nous aide à avoir une confiance totale en lui et que le Saint-Esprit puisse réveiller en nous ceux qui sommeillaient, peut-être parce qu'on a vu une situation qui nous a fait perdre espoir. J'ai pris ces exemples-là des chrétiens persécutés pendant 20 ans, 23 ans, 21 ans, mais qui ont gardé foi en Dieu. Qui ont gardé foi, continué à témoigner que Jésus est Seigneur, malgré la souffrance. Nous ici, nous arrive un petit pépin, on dit, ah, il faut se repentir, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire... Ah oui, c'est possible, mais Dieu est tout puissant aussi. Voilà, il est tout puissant. Alors plutôt que de chercher la cause, disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole et nous te glorifions parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à avoir une totale confiance en toi. Une totale confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Toi seul, comme nous l'avons lu dans plusieurs passages, tu accomplis ce que tu dis, Seigneur. On a vu des présidents promettre des choses qu'ils n'ont jamais accomplies. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement. Parce que le mandat est tellement court qu'ils n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils disent. Parce qu'il y a la pression de la population qui les empêche, Seigneur, d'aller jusqu'au bout. Mais toi, tu ne subis la pression d'aucun humain, Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, que, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 45, que tout ce qui nous arrive, l'adversité qui nous arrive, elle arrive parce que tu l'as permis avec l'objectif de nous amener, Seigneur, à avoir foi en toi, à nous humilier. Aide-nous, Seigneur, à méditer ta parole, Seigneur. Le psaume 33 que nous avons lu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mémoriser cela, Seigneur, à méditer, Seigneur. À nous souvenir, Seigneur, de ces paroles du psalmiste qui nous rappelle, Seigneur, dans le psaume 34 aussi, Seigneur 20, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel est aussi l'homme le plus juste. L'Éternel est le Dieu le plus juste. Il délivre toujours. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser cela. Plutôt que de nous lamenter, à attendre la délivrance, Seigneur, qui vient de toi. À attendre, Seigneur, la délivrance que tu vas produire, comme Josaphat a fait, alors qu'il avait aussi une armée, Seigneur. Mais Josaphat a compris que ce n'était pas une question de guerre physique. C'était une question de la présence de l'Éternel. Et nous prions pour que tu nous aides. Préserve-nous de nous comporter comme Saül, qui finalement a tant bien que mal résisté, mais a craqué à la fin. Parce qu'en réalité, il n'avait pas confiance totalement en toi. Seigneur, il nous est arrivé d'être comme Saül. Nous avons prié, nous avons fait ce qu'il fallait et nous n'avons pas vu la solution. Parfois, nous avons menti. Parfois, nous avons changé les choses à notre avantage, Seigneur. Nous venons prier pour que tu nous pardonnes, Seigneur. Aide-nous à avoir confiance en toi totalement. Seigneur, quelle que soit la situation, que nous puissions te responsabiliser, Seigneur, parce que tu es Dieu. Que nous puissions te responsabiliser comme les disciples l'ont fait dans la barque. dépassés, Seigneur. Ils sont venus. Ils t'ont fait intervenir, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans nos vies au nom de Jésus. Amen.